إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 121 de Sourate Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux à qui nous avons donné le livre, qu'ils le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Allah tabaraka wa ta'ala informe que ceux à qui il a donné le livre, il les a gratifiés de cet immense bienfait, du fait qu'ils récitent le livre. Ici, il ne s'agit pas de la simple récitation. D'ailleurs, les savants du tafsir ont divergé sur le sens de yatlunahu haqqa tilawatihi. Yatlunahu, il y a certains savants qui ont dit qu'ils le récitent comme il mérite d'être récité, c'est-à-dire ils le récitent en méditant ses sens et en rendant licite son licite et illicite son illicite. D'autres ont dit ils le récitent comme il doit être récité, c'est-à-dire qu'il ne le falsifie pas. Il ne le falsifie pas, comme cela a été rapporté des gens du livre, hein, qui tournent leur langue comme si c'est pour faire ressembler leur récitation au livre, alors qu'il ne fait pas partie du livre. Et ils disent il vient de la part d'Allah, alors qu'il ne vient pas de la part d'Allah. Et ils inventent, ils forgent des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils savent. D'autres savants ont dit yatlunahu haqqa tilawatihi, ici c'est dans le sens yattabi'unahu. Et tilawa dans la langue arabe, ça peut venir dans le sens al-ittiba', le suivi. Donc on pourra dire que ce qui est voulu par ce verset, c'est qu'il le récite comme il mérite d'être récité, sans le falsifier, en méditant ses sens, en rendant licite son illicite, et qui suivent ses principes, qui pratiquent ce qu'ils lisent et ce qu'ils récitent. Donc, cela peut englober tous ses sens. Et comme Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, rappelle constamment dans son tafsir, à chaque fois qu'il y a divergence entre les mufassirin dans une explication d'un verset, si on peut garder tous les sens, ils ne se contredisent pas, mais ils vont tous dans un sens commun, on peut garder tous ces sens, alors on garde tous ces sens tant qu'il n'y a pas d'opposition ou de contradiction entre eux. Donc c'est pour ça qu'ici on pourra dire, ce qui est voulu par cela, c'est qu'il le récite comme il se doit, sans le falsifier, et en méditant ses sens, en rendant licite ce qu'Allah a rendu licite, et illicite ce qu'Allah a rendu illicite, tout en pratiquant et en suivant ses principes. C'est pour ça que Cheikh Sa'di rahimahullah a dit, c'est-à-dire qu'ils suivent comme ils méritent d'être suivis. Ils le suivent comme ils méritent d'être suivis. Et At-Tilawa ici pour lui c'est Al-Ittiba, le suivi. Donc ils rendent licite son licite, ils rendent illicite son illicite. Ils pratiquent les versets clairs et sans équivoque. Et ils croient dans les versets qui sont équivoques. Voilà ceux qui sont les bienheureux parmi les gens du livre. Ceux qui ont reconnu le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux et qui ont été reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaissants de ses bienfaits. Et ils ont cru dans tous les messagers et ils n'ont pas fait de différence entre l'un d'entre eux. Voilà ceux qui sont les vrais croyants, non pas ceux qui ont dit « Nous croyons en ce qui nous a été révélé à nous, mais nous rejetons tout ce qui vient après nous. » C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a mis en garde cette dernière catégorie, ceux qui croient en une partie et qui rejettent une partie. « وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ » Et ceux qui n'y croient pas sont bel et bien les perdants, sont eux les perdants. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dans le sens de sa parole subhanahu wa ta'ala, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde de leur époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile et ils ne seront point secourus. Ces deux versets, il y a eu exactement leur semblable dans les versets 47 et 48 de Sourat al-Baqarah. Donc nous n'allons pas répéter leur explication. Vous y retournez, Inch'Allah, nous avons déjà expliqué. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Dans le sens de sa parole subhanahu wa ta'ala, donc du verset 124, et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certains commandements et qu'il les eut accomplis. Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre, un imam. Je vais faire pour toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, dans ce verset numéro 124 de Sourate al-Baqarah, concernant son serviteur, et son bien-aimé Ibrahim alayhi salatu wassalam, celui dont tout le monde s'est accordé sur son exemplarité et sur sa grandeur d'être et de comportement et de caractère. D'ailleurs, toutes les sectes parmi les gens du livre se prétendent de lui. Et même d'ailleurs, les associateurs et les polythéistes, ils s'affiliaient à Ibrahim alayhi salam. Car les polythéistes de Quraysh, ils prétendaient être sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. C'est pour ça qu'ils faisaient le Hajj et qu'ils faisaient certaines adorations qui existent, qui sont restées depuis la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. et Ismaïl qui a été envoyé comme prophète chez eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il a éprouvé et testé son serviteur Ibrahim alayhi salatu wa salam par certaines paroles, bi kalimat. Ces paroles, c'est quoi? C'est ses ordres. Ses ordres et ses interdits, ses commandements subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'habitude et la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, du fait qu'il éprouve ses serviteurs pour montrer et éclaircir qui est le menteur de celui qui est constant et ferme au moment des épreuves et des tentations parmi les gens véridiques. Qu'Allah nous compte parmi les véridiques. Ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala élève leur degré et qu'il augmente leur considération et qu'il purifie leurs actes. Et Allah tabaraka wa ta'ala a parlé donc parmi les meilleurs de ses serviteurs, a énoncé l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wa salam, son bien-aimé. Et Ibrahim alayhi salatu wa salam, Allah ta'ala informe que Ibrahim a accompli les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a réussi cette épreuve et il l'a fait de la meilleure des manières. Et il a été fidèle. Et Allah a été reconnaissant envers lui. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka ta'ala en a fait un exemple, un imam. Un imam, un exemple pour l'humanité. Les gens vont le prendre en exemple et suivre ses pas pour gagner le bonheur éternel. Et en cela, les éloges de Ibrahim alayhi salatu wasalam sont constantes. Et sa récompense est énorme. Car toute personne parmi les croyants donne de la valeur et de la considération à Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ça, c'est le plus grand des degrés. Si des gens veulent se concurrencer vers un degré, alors sachez que le plus grand des degrés, c'est le degré de l'imam, d'être un imam. Allah Ta'ala nous a enseigné que dans le Coran al-Karim, il nous a enseigné cette dua de, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nos épouses et de nos enfants une jouissance pour les yeux et qu'il fasse de nous wa ja'alna lil muttaqina imam, qu'il fasse de nous un imam, un guide pour les pieux, subhanallah. Donc le degré de l'imama, d'être un guide, c'est le plus haut degré pour lequel les gens qui veulent se concurrencer doivent se concurrencer. Et ce degré, il a été atteint par Ibrahim alayhi salatu wassalam et par notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre noble prophète qui est l'imam de tous les prophètes et messagers. L'imam de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur homme que la terre ait porté. Parmi les caractéristiques par lesquelles Ibrahim alayhi salatu wassalam a atteint ce degré très élevé, c'est qu'il aimait, il était loyal envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aimait les conseillers. Donc, pour atteindre ce degré-là, bien sûr, c'est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, personne ne peut atteindre les degrés des prophètes. Mais parmi les hommes autres que les prophètes, il y en a qui peuvent atteindre le degré de l'imam, d'être un imam, un guide pour les pieux. Comme on dit des imams de l'islam, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam ibn Taymiyyah, l'imam un tel. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés du fait qu'ils ont fait ces sacrifices et qu'ils ont atteint ces degrés. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, tellement il était loyal et il aimait le bien pour les gens, il a dit « Wa min dhurriyati » « Ma descendance aussi, fait que ma descendance, ya Allah, soit aussi des imams. » Alors Allah tabarak wa ta'ala lui a répondu « La yanalu ahdi al-zalimin » La yanalu ahdiya al-zalimin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu que mon engagement ne s'applique pas aux injustes. C'est-à-dire cette promesse, elle ne sera pas pour les injustes. Al-zalim, donc atteindre l'imama, être un guide dans la religion, ça nécessite d'être loin de toute injustice. L'injustice envers Allah. L'injustice envers soi-même, l'injustice envers les gens. Toute personne injuste ne peut pas atteindre ce degré. Car l'injustice, c'est le contraire d'être un imam. Un imam, il est loyal. C'est un guide pour les gens. Il aime le bien pour les gens. Donc comment il pourrait être injuste? S'il est un guide pour les gens, donc c'est celui qui accomplit les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas injuste envers Allah. Et il n'est pas injuste envers sa personne en faisant des grands péchés, ou en étant constant dans les petits péchés, ou en étant loin de l'obéissance d'Allah. Il n'est pas injuste envers les gens en mangeant leurs droits ou en leur faisant du mal. Donc, l'injustice vient à l'opposé de l'imam, d'être un guide. Et c'est pour cela, ici, en fait, il y a les deux opposés, l'injuste et l'imam. Toute personne qui veut s'approcher des qualités de l'imam, il doit s'éloigner de plus en plus de l'injustice. Atteindre l'imam, cela nécessite deux caractéristiques essentielles qui sont citées par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et plusieurs savants et dont Cheikh Sa'di rahimahullah aussi cite. Elles sont la patience et la certitude. As-sabru wal-yaqinu. La patience et la certitude. La patience dans l'obéissance d'Allah, la patience envers les interdits, la patience face aux épreuves qui peuvent nous toucher. Et la certitude. Et la certitude. Donc cela prouve que cette personne qui atteint ce degré a une foi très grande et des œuvres pieuses et un comportement et une morale très élevée et un savoir-vivre et un savoir-être proche de la perfection, droit. Et il a dans son cœur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala complète et sa crainte et le retour à Allah subhanahu wa ta'ala et le repentir. Alors comment un injuste il pourrait atteindre ça? C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit « La yanalu ahdi al-zalimin » « Mon engagement ne s'applique pas aux injustes. » On peut tirer de ce verset « Bi tariqati mafhoum al-mukhalafa » que celui qui n'est pas injuste, il va atteindre l'imam. Ceci est vrai à condition qu'il pratique les causes et les conditions d'atteindre l'imam. Et on a parlé des deux principales causes, la patience et la certitude. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dans le sens de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière la station de Ibrahim. Et nous confiâmes à Ibrahim et Ismaïl ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui circumbulent, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Donc Ibrahim, c'est traduit par Abraham. Ismaïl par Ismaël, mais on ne traduit pas les prénoms des prophètes. Ça, c'est juste pour ceux qui ont des références chrétiennes, qui puissent s'y retrouver et reconnaître. En espérant que même des non-musulmans écoutent et soient guidés par ces explications du Coran, Inch'Allah. Donc, dans ces versets, on en est au verset 125. Allah Ta'ala cite un exemple qui prouve l'exemplarité et le fait que Ibrahim a.s. est un imam. Du fait que Ibrahim a.s., Allah l'a choisi pour construire la maison sacrée de la Mecque avec son fils. Pour qu'il en soit un pilier parmi les piliers de l'islam et une cause d'effacer les péchés. Et on y retrouve parmi les traces et les effets du bien-aimé Ibrahim a.s. et de ses enfants, avec lesquels on reconnaît son degré d'imam et d'exemplarité, et avec lesquels on peut se rappeler la situation de piété dans laquelle il était. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ » وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. Et quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Mathabatan, c'est un endroit où les gens reviennent et trouvent un lieu de résidence et un lieu où ils peuvent être en sécurité et ils y retrouvent des bienfaits religieux et mondains et qu'ils y reviennent à chaque fois. Et Allah Ta'ala, il l'a fait amnan. Il en a fait un lieu de sécurité. Non pas seulement un endroit où les gens s'y retrouvent, mais un lieu de sécurité. Toute chose y est en sécurité. Même les animaux féroces, même les choses inertes. Comment ça? Quelqu'un dit, comment les choses inertes et les animaux féroces elles sont en sécurité dans la maison sacrée? Naam. Allah Ta'ala a interdit par la bouche de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de casser les branches dans les limites sacrées de la Mecque, de chasser le gibier. Donc il y a des règles spécifiques dans les limites sacrées de la Mecque, même pour le non-pèlerin, pour toute personne. D'ailleurs, tellement la sacralisation de la Mecque et des limites sacrées de la Mecque était grande, même chez les polythéistes, que la personne qui trouvait son père, le tueur de son père, s'il trouvait le tueur de son père dans les limites sacrées de la Mecque, il ne le provoquait pas, il ne lui parlait même pas. Il ne le cherchait pas après lui. Tant qu'il était dans les limites sacrées de la Mecque. Donc quand l'islam est venu, il a consenti en cela, car ils ont pris cette considération pour les limites sacrées de la Mecque de la religion de Ibrahim alayhi salat wa salam. Ce n'était pas une chose mauvaise, mais une bonne chose. Donc l'islam est venu confirmer cela et le réglementer et augmenter encore en sacralisation et en respect la Mecque et les limites sacrées de la Mecque. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى et adoptez donc Maqam Ibrahim Musalla, je laisse en arabe exprès, parce qu'ici il est traduit, parce qu'on peut en comprendre plusieurs sens. Cela peut vouloir dire de prendre la station de Ibrahim qui est connue aujourd'hui, celle qui est entourée par, juste en face de la porte de la Kaaba, un petit objet doré qui a des vitres autour. Donc il y a, en fait ça c'est juste pour protéger. À l'intérieur, il y a une pierre, il dit c'est la station de Ibrahim, où il se tenait pour regarder la maison sacrée et pour la construire. Donc, la première explication, c'est le fait de prier les deux rakat après le tawaf derrière cet endroit-là. Comme tout le monde sait, c'est une sunna de faire deux unités de prière après avoir fait le tawaf. Quand on fait le tawaf, les circumambulations autour de la maison sacrée, les sept tours, de faire deux unités de prière surérogatoire derrière la station de Ibrahim, pas tout de suite derrière, aujourd'hui c'est pas possible, plus loin derrière, un endroit où on gêne pas les gens. Donc ça c'est la première explication. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, le fait de prier les deux unités de prière après chaque tawaf. Mais il y a une explication plus vaste que cela. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, c'est-à-dire prenez pour exemple toutes les stations de Ibrahim pendant son pèlerinage et les différentes adorations qu'il a fait. Et Musalla, dans ce cas-là, ça voudra dire l'endroit d'adoration. C'est-à-dire tous les rites que Ibrahim a.s. a fait, tous les rites pieux qu'il a fait, prenez-les comme exemple et prenez-les comme lieu d'adoration pour faire l'adoration d'Allah, pour établir l'adoration d'Allah en ces lieux-là. Et ça, c'est beaucoup plus général. Ça prend en compte le fait de prier les deux rak'at sunnah après le tawaf, comme toutes les autres adorations que Ibrahim a.s. a fait pendant le pèlerinage ou autre. Donc, Cheikh Sa'di rahimahullah a vu que ce deuxième sens est plus juste et prépondérant, car il englobe aussi le premier sens, en plus du fait de pratiquer toutes les autres adorations que Ibrahim a.s. nous a montré et qui ont été aussi confirmées et établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit et nous confirme à Ibrahim et Ismaïl ceci, purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, c'est-à-dire qui circumbulent, ils font retraite pieuse, l'i'tikaf, et s'y inclinent et s'y prosternent, c'est-à-dire la salat. Donc Allah a révélé et a ordonné à Ibrahim alayhi salatu wa salam et à Ismaïl son fils de purifier la maison sacrée de tout polythéisme, de toute mécréance, de tout péché, mais aussi de toute saleté et impureté physique, pour que cet endroit soit pur, propre, approprié pour toutes les personnes qui viennent y faire le tawaf, qui viennent circumambuler, faire les tours autour de la maison sacrée. Pourquoi Allah Ta'ala a commencé à parler du tawaf? Car c'est l'adoration qui est spécifique à la maison sacrée. Mais sinon, la salat a beaucoup plus de valeur. Donc Allah Ta'ala a devancé les deux adorations qui sont spécifiques à la maison sacrée, le tawaf et l'i'tikaf. Le tawaf et l'i'tikaf, la retraite pieuse. La retraite pieuse, elle est spécifique aux maisons, à toutes les maisons d'Allah Ta'ala, à toutes les mosquées, à l'al-qawl sahih. Mais elle est plus grande, elle est de plus grande récompense et elle est mieux dans la maison sacrée. Donc c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a devancé le tawaf et l'i'tikaf à la salat. Bien que la salat a plus d'importance en islam que le tawaf et l'i'tikaf, que la circumambulation et la retraite pieuse. Et la retraite pieuse. Donc quand il dit « وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ » et à ceux qui s'inclinent et se prosternent, c'est-à-dire pour les prieurs, pour ceux qui font salat. Quel est l'intérêt et la sagesse qu'Allah tabaraka wa ta'ala est annexé et affilié la maison à son nom, la maison d'Allah, la maison d'Allah. Premièrement, cela pousse à avoir beaucoup plus d'importance et prendre beaucoup plus au sérieux cette tâche. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il a ordonné cette tâche à Ibrahim et Ismaïl. Donc le fait de dire la maison d'Allah, Beitia, ma maison. Et c'est pour ça que ça les enjoint à dépenser et faire le maximum, dépenser toute leur énergie le maximum pour pratiquer cet ordre. De même que cette annexion et cette affiliation à Allah tabaraka wa ta'ala, cela l'augmente en honneur et en valeur. Et cela sous-entend un ordre à ses serviteurs de respecter ces lieux et de les glorifier et de les honorer. De même que le fait de l'affilier et l'annexer au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala à la maison, cela est une cause d'attirer les cœurs vers elle, car les cœurs sont attirés à tout ce qui est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala et affilié à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dans le sens de sa parole, subhanahu wa ta'ala. Et quand Ibrahim supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit: et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. Ici Allah tabaraka wa ta'ala nous expose que Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il a invoqué pour cette maison qu'elle soit une cité, que c'est autour de cette maison, la cité qui abrite la maison sacrée, soit une cité sécurisée, soit une cité, un lieu de sécurité. Et qu'il octroie et qu'il pourvoie à ses habitants tout type de fruits. Mais Ibrahim a.s., comme dans son invocation tout à l'heure, quand il a demandé au min dhurriyati, quand Allah Ta'ala l'a fait imam, il a dit « et ma descendance ». Il avait fait une invocation générale, absolue, qui n'était pas réglementée, qui n'était pas limitée. Alors ici, par politesse envers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu refaire la même erreur. Il a dit « octroie de toutes sortes de fruits aux habitants de cette cité, aux croyants parmi eux ». C'est pour ça qu'il l'a dit « man amana minhum Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Après avoir fait dua, il a rajouté cette condition, par politesse envers Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire la même erreur que la première fois, d'invoquer une invocation absolue et généralisée pour tout le monde. Alors Allah ta'ala a répondu à cette condition que Ibrahim alayhi salatu wassalam, car ici, il n'a pas demandé l'imama dans la religion, mais il a demandé la subsistance. Et la subsistance, elle n'est pas limitée aux croyants. Allah donne la subsistance aux croyants comme aux mécréants. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit « Waman kafar ». Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit « Man amana minhum billahi wal yawmil akhir ». Allah lui répond « Waman kafar ». Et les mécréants aussi. Eux aussi, ils auront leur risque. Et Allah donne ce bas monde à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Par contre, il donne la foi et la religion exclusivement à ceux qu'il aime. Subhanahu wa ta'ala. Donc, la subsistance d'Allah, elle est généralisée pour le croyant, pour le pieux, pour le pervers, pour le mécréant, pour le pécheur, pour l'obéissant, pour tout le monde. Mais le musulman, il prend aide dans la subsistance d'Allah tabaraka wa ta'ala pour adorer Allah. Et à partir de là, il va et il passe vers des bienfaits et des plaisirs constants et meilleurs qui sont les délices du paradis. Quant au mécréant, il en jouit une courte jouissance dans ce bas monde, puis Allah tabaraka wa ta'ala le contraint au châtiment du feu. C'est-à-dire qu'il y tire, et lui, il y tire, car la personne, il n'est pas, bien sûr, il va y aller contre son gré. Il y sera contraint au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.